20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Ressenti par chacun de nous, elle n'en est pas moins un sujet tabou, ou plutôt était. Depuis quelques années, elle se déverse un peu partout dans la société, sans frein, sans honte et sans vergogne. Alimentée par les médias, mobilisée par les politiques à des fins électoralistes, affichée haut et fort dans la rue ou sur les réseaux sociaux, la haine a fait en quelque sorte son coming out. Pourquoi et comment la haine, que les sociétés humaines ont de tout temps cherché à maîtriser, a-t-elle soudain trouvé des voies d'expression publique? À qui profite son émancipation? Qui servent les langues déliées et les pulsions non réprimées? Notre invitée de ce soir, Hélène Leuillet, maître de conférence en philosophie à Paris 4, psychanalyste et auteur de l'essai « Tu haïras ton prochain comme toi-même », publié chez Albin Michel il y a quelques semaines, offre une réponse à ces questions dans un parallèle inattendu, car a priori paradoxal, entre la tentation du populisme et celle du djihadisme. Ces deux mouvements radicaux sont fondés sur un même ressort, celui de la levée du bouclier qui est le refoulement de la haine. C'est au croisement de la psychanalyse et de la philosophie que nous situerons notre réflexion de ce soir. Nous essaierons, armés de ces deux disciplines, de comprendre comment les discours haineux portés par les leaders populistes et le terrorisme islamique parviennent aujourd'hui à séduire autant de jeunes. Hélène Leuillet, bonsoir.
Bonsoir Mélanie Pécla.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est Déshabillez-moi et nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
Déshabillez-moi.
C'est vrai qu'il fait très chaud dans le studio, il fait très très chaud. Alors première question pour lancer un peu cette discussion autour de ce sujet qui est la haine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Hélène Leuillet, comment la philosophie définit ce concept, si on peut l'appeler comme ça? Est-ce qu'elle est obligée forcément d'en passer par la psychanalyse pour la penser, ou est-ce qu'au contraire, il y a déjà eu une théorie de la haine avant la psychanalyse?
Écoutez, je me faisais la remarque l'autre jour que, en fait, sur la haine, il n'y a pas tant de choses que ça. Et que vous remarquerez que, autant sur l'amour, il y a des pavés qui sont écrits, autant sur la haine, les livres, les quelques livres qui existent, le livre de Gunther Anders, le livre de Petit bréviaire de la haine de Paul Yakov, un livre du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, le Contre la haine de Caroline Emke, ont pour point commun d'être des livres brefs. Les livres sur la haine sont brefs. Alors pourquoi? Est-ce qu'on ne sait pas définir la haine? Si, il y a des définitions classiques dans les traités des passions, Spinoza, Descartes. Voilà, les traités des passions laissent une place à la haine. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant sur le fait, sur votre remarque, le fait que, quoi? En philo, on ne parle pas de la haine, pas tant que ça. Parce que, bon, alors, il y a d'une part cette chose qui est un peu la thèse que j'essaye de développer dans ce livre, qui est que la haine détruit le langage. L'amour fait parler, la haine, en revanche, nous laisse muets, hein, laissant la place au cri, si on en est l'objet, à l'insulte, quand on l'éprouve, voire au passage à l'acte qui abolit tout langage. Et puis, alors donc, peut-être que quand on écrit sur la haine ou quand on essaye de penser la haine, eh bien, on rencontre finalement un problème qui est assez classique en philosophie sur la pensée du mal ou la pensée de la mort. C'est-à-dire, on rencontre ce néant, ce vide, qui fait qu'on ne peut pas avancer très loin. Une fois qu'on a dit ça, on est quoi? Et puis, il y a peut-être une autre raison. C'est que, évidemment, j'ai écrit, vous le rappelez, ce livre dans un contexte. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui autour de la haine. Et en vérité, la haine n'est pas le problème. Comme l'a dit Spinoza, c'est une passion triste. Nous n'aimons pas éprouver la haine. Elle nous agite, elle est désagréable. Et la question aujourd'hui n'est pas tant la haine que, comme vous l'avez rappelé, le refoulement de la haine, la levée de refoulement sur la haine, ce qui signifie aussi une jouissance de la haine dans le social, jouissance qui favorise le passage à l'acte. Ce n'est pas un phénomène nouveau non plus, mais Bon, aujourd'hui, c'est quand même plus général. Et donc, tout se passe comme si, quand on écrivait sur la haine, ou comme si, en parlant de la haine, il fallait quand même toujours faire attention à ne pas susciter la jouissance de la haine. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les livres sur la haine sont brefs, et que peut-être, en philosophie, au fond, il n'y a pas de grand traité de la haine, pas de grande définition de la haine. On se contente de l'opposer à l'amour, ce qui est d'ailleurs pas toujours très satisfaisant, de dire que c'est une passion triste, et puis on s'en tient là, mais c'est pas sans raison.
Et alors, quel va être l'apport donc de la psychanalyse sur cette question de la haine, puisque j'imagine que c'est donc là que va se créer la réflexion.
Tout à fait. La psychanalyse, eh bien, prend toutes les difficultés au sérieux, finalement. L'intérêt de la psychanalyse, c'est que quand quelque chose ne tient pas du côté philosophique, eh bien, justement, ça se met à intéresser les psychanalystes. Et donc, moi, je me suis fondée sur simplement les choses que Freud nous a apportées, en disant, à partir de... Il y a deux périodes dans la vie de Freud. Il y a une période où il explique tout par le principe de plaisir, c'est-à-dire que tout ce qui est refoulé, eh bien, c'est du plaisir qu'on s'interdit. Et puis, il y a un moment, dans les années 20, en 1920 exactement, mais c'était préparé un petit peu avant, il s'est dit « ça colle pas ». Alors évidemment, dans ce qui faisait que ça collait pas, il y avait l'échec de ses cures. Ça ne marche pas avec seulement le principe de plaisir. Et puis, il y a eu quand même aussi déjà la Grande Guerre. La Grande Guerre, cette grande tuerie, cette grande boucherie qui a été la Grande Guerre, que Freud a vécu très douloureusement. D'abord parce que il avait notamment tout un réseau déjà de psychanalystes. Et puis, il avait de la famille aussi, lui-même en Angleterre. Et d'un coup, ses proches étaient des ennemis. Sans compter évidemment les proches au combat, etc. Et donc Freud là a dû prendre en compte quand même ce phénomène dans l'humain, et il a forgé donc un au-delà du principe de plaisir qui est la pulsion de mort. Et la haine en psychanalyse, c'est un des noms de la pulsion de mort. Et alors, bien entendu, dire ça, ce n'est pas justifier la haine. La psychanalyse n'est pas naturaliste, il y a parfois des malentendus sur ce point, mais c'est prendre en compte ce fait anthropologique qu'est la haine pour essayer de la penser et de voir ce qu'on en fait et ce qu'on peut en faire. Parce qu'après tout, le trajet d'une analyse, c'est dans une certaine mesure de passer de cette pulsion de mort, de l'emprise de la pulsion de mort, qui se traduit toujours par de la haine en soi-même, pour soi-même, qu'on projette plus ou moins sur les autres, ou qu'on garde parfois jalousement pour soi, parce que c'est tellement bon de se haïr aussi soi-même. Et en tout cas, voilà toutes ces choses qui nous empêchent de vivre et qui font notre affaire en analyse, c'est-à-dire d'essayer de délier ça et puis d'essayer de le renouer autrement pour que ça n'entrave pas trop l'existence d'un sujet.
Alors, vous revenez, enfin, si on revient sur Freud, ouais, et donc le fait qu'il écrit à partir de la Grande Guerre, est-ce que vous pensez qu'on peut penser la haine hors d'un contexte politique, économique? Là, votre essai est justement ancré dans un contexte. Est-ce qu'on peut penser la haine hors contexte?
Ça, justement, c'est la tentative peut-être de la philosophie, et c'est peut-être pourquoi la philosophie est un peu brève sur la haine. Parce que, justement, l'avantage aussi de la psychanalyse, vous me demandiez pourquoi j'ai choisi les outils de la psychanalyse pour penser la haine, c'est que, justement, la différence entre l'individuel et le collectif, entre notre vie privée et intime et notre vie sociale, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de sens du point de vue analytique. Comme on dit souvent, quand on reçoit quelqu'un en analyse, bon, évidemment, c'est une affaire privée, c'est une affaire intime, la personne n'est pas obligée de tout raconter à ses amis ou à ses collègues de ce qui se passe pour elle en analyse, pas obligée de le dire non plus. Mais en même temps, elle ne vient pas seule. Le cabinet de l'analyste est bien rempli. Je veux dire, elle vient avec sa famille, elle vient avec ses amis, elle vient avec ses collègues, elle vient avec la société. aussi. Il y a l'histoire. Et donc, il y a du monde. Il y a du monde dans le cabinet d'analyste. Et puis, inversement, le social, notre vie collective, dans laquelle nous jouons parfois un rôle, dans laquelle, bien sûr, il y a un semblant obligé. Mais nous y sommes quand même avec nos pulsions. D'abord, avec ce qui nous fait vivant ou ce qui entrave notre vie, mais qui sont nos pulsions. Donc, bien entendu, la haine, on la pense dans le contexte. Mais le contexte, c'est le texte aussi. Et notre texte subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, ce qui nous apparaît comme ce discours un petit peu déniaisé sur la haine, un peu averti, ça fait chic la haine quand même, on est un peu neuneux quand on ne connaît pas la haine, quand on ne dit pas de mal d'autrui, on est un peu candide, etc. Donc la haine aujourd'hui se porte bien, et ce discours sur la haine forcément a une emprise sur les sujets, et notamment les conforte dans la tentation de la haine de soi, et dont elle semble les soulager. Quand je trouve vraiment quelqu'un à haïr, et plus encore meilleur, une catégorie à haïr, voilà, je crois que je vais me débarrasser de la haine que j'ai de moi-même. Et ça procure aux militants un certain soulagement. Mais en vérité, le levier, c'est encore la haine de soi. Et c'est ça qui conduit au passage à l'acte. Et c'est ça qui fait que c'est un brûlot politique, un grand danger politique.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite face à ce lever de bouclier du refoulement de la haine ?
Je crois. Et dire cela, ce n'est pas dire avant, c'était mieux. Pas du tout. On rappelait la Grande Guerre, c'est absolument terrible. Et les historiens, un certain nombre d'historiens considèrent que, évidemment, la dégradation ensuite du siècle et cet héritage de génocide qui est le nôtre vient de là. Mais au demeurant, ça n'empêche pas qu'il y ait des formes singulières à toutes les époques. Et au XXIe siècle, il y a des formes singulières de la haine et qui passent notamment par ce nouveau discours qui est une levée de refoulement sur la haine, le fait qu'il y a une jouissance de la haine, qu'on trouve ça pas mal quand même, on trouve ça bien. Et donc après, on est tout étonné de dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi du terrorisme ? Pourquoi tant de haine ? Et oui, mais c'est dans le discours ordinaire.
Nous, d'une autre trempée et d'une singulière extase. Nous de l'épique et de la déraison. Nous des fausses années, nous des filles barrées. Nous de l'autre côté de la terre et des phrases. Nous des marges, nous des routes, nous des bordels intelligents. Oh, ma sœur, la violence, nous sommes tes enfants. Les pavés se retournent et poussent en dedans. J'ai l'impression démocratique qui me fait des rougeurs à l'extrême côté du cœur et des entrailles. J'entends par là mes tripes à la mode de mai. Je vous commande d'être bref et couillosif. J'ai le sentiment bref de ceux qui vont mourir, et je ne meurs jamais, à moins que. Je sais des assassins qui n'ont pas de victimes, qui s'en vont faire la queue pour voir le sang d'écran, et cette pellicule objective qui pellicule sur le vif. Surtout, ne pleure pas, les larmes, c'est le vin des couillons. Moi, je ne pleure plus, et je le dis bien haut, bien tendre aussi, et bien à l'aise. Crevez-leur le paquet qu'ils portent sur leur quille. Marx était un hippie, c'est pas comme en 17, à la consigne, dans cette Russie rouge à l'unif. Et personne jamais n'a été réclamé ce barbu stalingradé. Quand je vois un stalinien, je change à Stalingrad. Je sais des assassins qui ont le cran d'arrêt et qui sont beaux comme les cons qui vont voter. Des assassins assassinés et leur manière à ne jamais vouloir crever comme crevèrent les communards, mes frères. Et je le dis bien haut, il faut déconstitutionnaliser le foutre et porter l'inconfort cousu dessous leur peau à ces bourgeois qui se permettent de jouir. En outre, je vous commande d'être bref et cartésien. Je sais des charmes bruns qui sont de sang caillé et qui se grattent comme on gratte une blessure. Ça vous ravive un peu de rouge, ça a l'allure d'une légion d'honneur que l'on pardonnerait. Oh, ma sœur, la violence, Ô ma sœur lassitude, ô vous jeunes et beaux empêtrés dans vos livres, il faut faire l'amour comme on va à l'étude et puis descendre dans la rue. Il faut faire l'amour comme on commet un crime. Ô ma sœur la violence, tes enfants s'analysent et du Guatemala s'en viennent des parfums de sang et des guatémaltèques allant s'analysant dans les ruisseaux de sang coulant comme la crème de la révolution montant. Ô ma sœur la violence, ô la fleur du boucan, il fait un bruit à rencarder tous les voyeurs et un bruit qui se voit, ça vous a des couleurs à vous barrer la vue pour des temps et des temps. Je sais des bises sans ordant depuis l'Afrique. Le monde est court, la gosse. Il faut tâter la trique dans le pieu, dans la rue. Mais tâter de cet ordre nouveau où germe le désordre, le beau désordre des voyous au ventre lisse. Viens par ici, la gosse, un peu, que je t'en glisse de ma graine d'amour qui gonflera dans toi comme un chagrin de carne sur le monde envahi de tant de muselières. Dans le Paris des chiens, je vais l'âme légère. Oh, ma sœur la violence. Oh, ma sœur lassitude. Oh, vous, jeunes et beaux, empêtrés dans vos charmes. Il faut faire l'amour comme on va à l'étude, les yeux pleins les jardins où fleurissent les armes. Des armes comme une esthétique de la solitude. Des armes comme une sinistre compo d'anglish. What do you mean, gun? Je sens que nous arrivent des trains pleins de Browning, de Beretta et de fleurs noires, et des fleuristes préparant des bains de sang pour actualité color télé. Le sang, ça s'empexe tout ce qu'il y a de bien. Le sang, c'est rentable dans la technique coloration. Et je te ferai voir un sang vert quand il sera question de questionner. Je sais des fleurs d'amour qui pollènent les blés et qui vous font un pain que l'on mange à genoux. Un pain de chair vivante et que l'on aimerait comme on aime une enfant qui cache ses atouts et qui les touche un peu comme on caresse une arme, un doigt sur la gâchette et le reste aux abois, et que cirise alors ta violette de Parme, enfant mauve de mon silence et de ma loi. Des armes comme une esthétique du pain sur la planche, des armes blanches comme l'aube blanche à Paris. C'est aube comme le foutre de l'absence.
C'était Léo Ferré. La violence et l'ennui, on le coupe un peu méchamment, mais on a manqué de temps sinon. Il est 20h17, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
Alors dans Déshabillez-moi, on écoute souvent des petits extraits de films. Alors là, j'en ai choisi un que vous connaissez certainement, La Vague, de Denis Gonzel, qui reprend, enfin qui est inspiré d'une expérience qui avait été menée à Palo Alto, qui s'appelait La Troisième Vague, sur un régime autocratique. Donc c'était mené par un professeur d'histoire. On va juste écouter l'extrait, puis on en parle après.
On m'a toujours laissé avoir tout ce que je voulais. CD, fringues, argent, etc. Et au milieu de tout ça, moi, je mourrais d'ennui.
C'est mon devoir.
Mais j'ai adoré ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça n'a plus aucun sens de vouloir être le plus beau ou la plus belle, celui ou celle qui a le plus de succès. Grâce à la vague, nous sommes tous égaux. L'origine, la religion ou le rang social ne sont plus déterminants à présent. Nous appartenons tous à un seul mouvement. Croire en la vague, c'est croire en un idéal. C'est retrouver des valeurs pour lesquelles on veut lutter. Avant, je jouais tout le temps les gros durs. Depuis une semaine, plus j'y repense, plus ça me paraît stupide. C'est tellement mieux de se mettre au service d'une cause juste. C'est en se serrant les coudes au sein du groupe qu'on obtient des résultats meilleurs. Je suis prêt à faire passer la communauté avant moi. Ces extraits, ainsi que vous l'aurez remarqué, sont tirés des devoirs que vous avez rédigés hier sur ce que cette semaine vous a apporté. Apparemment, la vague vous a inspiré. C'est pourquoi je considère qu'il n'est pas souhaitable que le projet s'arrête.
Mais qu'est-ce que tu fais, putain ?
Marco, rassieds-toi.
Attends, mais il croit tout ce que tu veux.
Assieds-toi. Je viens de te dire de te rasseoir. Depuis des années, l'Allemagne périclite. Nous sommes les grands perdants de la globalisation. Il faut produire toujours plus, nous serines les politiques. C'est soi-disant la seule issue à la crise. Mais les politiques ne sont que les marionnettes des grandes firmes. On nous raconte que le chômage est en baisse. Nous sommes champions du monde de l'exportation. Oui, mais la vérité, on la connaît. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. La seule véritable menace, c'est la terreur. Une terreur que nous avons initiée nous-mêmes en laissant sciemment l'injustice régner dans le monde.
Et pendant qu'on mène lentement, mais sûrement notre planète à sa perte, une poignée de privilégiés se frottent les mains. Ils peuvent se les offrir, leurs capsules spatiales, du haut desquelles ils nous regarderont sombrer.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait qui font justement référence à certaines idées que vous développez dans, dans votre essai. D'abord, il y a les questions de l'ennui, de cet idéal, d'une cause juste, d'une communauté, la thèse complotiste, le rejet de l'élite. Et qui donc, du coup, quand on entend cet extrait, on pourrait se demander en fait si on est effectivement du côté du populisme ou du côté du djihadisme, parce qu'on a l'impression que ce sont les mêmes ressorts, en fait, les mêmes concepts qui sont mobilisés.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que vous avez rappelé en introduction que évidemment, là, j'ai écrit ce livre dans un contexte où on oppose, on est tenté d'opposer djihadisme et populisme dans le contexte qui était le contexte électoral français, dans lequel les populistes et les djihadistes sont en miroir les uns des autres sur le plan idéologique. Les jeunes qui s'engagent dans le populisme disent, voyez, il y a un danger du côté de l'islam en général est considéré comme une totalité. Et puis les djihadistes disent, vous voyez, ces pays, ce sont des pays racistes, etc. Il n'y a que des populistes. Alors que voilà, ce film effectivement est très intéressant parce qu'il nous rappelle la fabrication de la haine. Comment ça marche, hein. C'est un film assez fascinant qui met très mal à l'aise, mais volontairement, hein, c'était fait pour ça, qui est la fabrication de toute pièce, hein, d'un phénomène totalitaire de foule. Hein, là, le prof, d'abord, on explique, c'est l'adaptation d'un roman, explique que c'est assez bien fait, hein, dans l'adaptation cinématographique, hein, qu'il veut montrer à ses élèves comment ça marche. Hein. C'est-à-dire que ils peuvent tous se faire enrôler, hein, contre leur incrédulité. Et il arrive plus à arrêter l'expérience. Hein. Ça marche tellement bien qu'il n'arrive plus à arrêter. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte d'épure, à la fois sur le plan thématique, il faut qu'il y ait des thèmes, mais ces thèmes, ils sont toujours les mêmes. Et ce qui compte, c'est sa capacité à produire une conversion. Et comment est-ce qu'on convertit ? On croit toujours que, évidemment, on veut être libre. En vérité, les sujets, quand ils sont pris à un certain point de détresse, ils renoncent très facilement à la liberté. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise quoi faire, c'est qu'on leur donne une cause, effectivement. Ne plus être dans ces embarras de savoir que faire de sa vie, que faire demain, qui rencontrer, etc. Il y a là la rencontre, elle est faite, il y a un leader, là le prof est transformé en leader, il y a un discours qui nous dit quoi faire et quoi être surtout. Et là il y a un des jeunes au début qui le dit très bien, hein, dans son devoir, avant je m'ennuyais. Et ça, les jeunes qui s'engagent dans le populisme, les jeunes qui l'engagent dans le djihadisme, il n'y a aucune causalité, aucune détermination psychique, sociale, politique prédéterminée qui vaille. En revanche, il y a un facteur qui est toujours allégué, c'est l'ennui. Et l'ennui, attention, c'est quelque chose de très important. L'ennui, d'abord, c'est la haine. Hein. In odio esse, c'est l'étymologie de ennui, en latin, être dans la haine. Et effectivement, quand je m'ennuie, j'ai la haine, il y a de la haine dans l'ennui. Soit je me révèle à moi-même comme haineux, je ne suis pas capable de passer une heure dans la compagnie de moi-même. Quand on n'est pas capable de passer une heure dans la compagnie de quelqu'un, c'est qu'on le hait.
Donc, on l'aime pas beaucoup.
On l'aime pas beaucoup, hein. Mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la haine. Quelqu'un qui doit être occupé tout le temps, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être avec lui-même. Donc il y a de la haine. Et l'ennui et de même un certain sentiment de la mort. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un m'ennuie, quand je suis prisonnier d'un conférencier épouvantable, j'espère que c'est pas ce qu'on inflige aux auditeurs.
Pas du tout.
Là. on a le sentiment, mais qu'ils nous haïssent. Mais comment peuvent-ils nous faire ça? Là, on est coincés au théâtre aussi, ça arrive. Je ne peux pas sortir sans déranger tout le monde. Je suis obligée de me taire et je m'ennuie. Il y a quelque chose de la haine. C'est d'une extension de la haine et d'une haine que j'impute à l'autre. Tu dis, mais c'est pas possible. Pour me faire une chose pareille, d'être aussi ennuyeuse, c'est que c'est vraiment qui m'en veut. Et d'ailleurs, quand on ennuie les autres, effectivement, il faut toujours s'interroger un peu sur les intentions qu'on a à leur égard. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même une forme de haine. Donc, l'ennui, c'est terrible. Et là, on voit qu'on a affaire aujourd'hui, et ça va avec la levée du refoulement sur la haine, à une jeunesse qui s'ennuie et qui ne sait plus s'ennuyer. Parce que l'ennui normal est l'apprentissage du vide dans l'enfance, c'est-à-dire l'apprentissage de la solitude, l'apprentissage de la compagnie de soi-même, comme je disais tout à l'heure. Il faut arriver à s'arranger avec soi, parce qu'il faut pouvoir rester tranquillement tout seul avec soi-même. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer, déjà. Et puis, c'est évoqué là, dans le film, sur plus besoin d'images, plus besoin de faire semblant, etc. Il est vrai que la façon dont nos sociétés narcissiques poussent à l'identité favorise l'ennui. Parce que lorsqu'on n'existe que comme image pour les autres et pour soi-même, eh bien, on n'a plus d'autre rapport à soi et aux autres que de l'image. C'est la seule chose que je demande aux autres, c'est qu'ils me renvoient une image favorable de moi-même. Donc, dès lors, il n'y a plus que l'image. Et ceux qui sont très narcissiques éprouvent ce vide, ce vide de l'ennui, c'est-à-dire quand les images tombent, parce que heureusement, elles tombent. Il faut que ça tombe, qu'on rentre chez soi et que, là, on n'est plus dans l'image. Mais c'est là que ça clash. Et chez les gens très narcissiques, ça clash dans la vie intime. Aujourd'hui, la clinique de la conjugalité, elle est extrêmement intéressante, mais extrêmement douloureuse. Je ne dis pas qu'avant, les couples, c'était merveilleux. Mais je dis que ça n'allait pas mal de la même manière qu'aujourd'hui. C'est là qu'est l'inédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça monte très très vite. Ça monte très vite en haine. Pas forcément d'ailleurs en violence physique. Mais enfin, la violence verbale de la haine dans deux personnes qui se sont aimées souvent, c'est terrible aussi. Cette façon de monter en haine et que je mets en relation avec le narcissisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est chez soi et qu'il n'y a plus de satisfaction narcissique à attendre, eh bien, c'est insupportable, littéralement insupportable. C'est la haine et l'ennui, parce que la dispute, c'est bien souvent un moyen, la haine, d'exprimer autrement cet ennui, ce vide qui nous prend quand on n'a plus de satisfaction d'ordre narcissique. Et la jeunesse, aujourd'hui, est confrontée à ce vide, parce qu'on se dit, de quoi s'ennuie-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a de si ennuyeux ? C'est la condition humaine aussi, ce vide-là. Il faut peut-être lire Pascal, relire Pascal. Mais il y a plus de ressources dans une société d'images. Plus de ressources en soi-même.
Donc effectivement, ça touche particulièrement les jeunes. On l'a dit, on le voit aussi dans le film La Vague. Mmh. Et puis effectivement, on voit bien que le Front National, par exemple, séduit une partie jeune de la population, ce qui est un peu inattendu, parce qu'effectivement, on a pu penser que ce n'était pas la partie
qui devrait être séduite,
que le djihadisme aussi séduit les jeunes. Est-ce que, à quel moment, en fait, la séduction se transforme en passage à l'acte ? C'est-à-dire qu'il y a quand même un chemin entre le fait d'être intéressé, d'être pris et d'adhérer à un certain nombre d'idées et d'accepter de passer à l'acte.
Tout à fait, effectivement, là, il y a des degrés. Alors, vous avez raison de rappeler que le djihadisme et le populisme sont pas tout à fait de la même manière des mouvements de jeunes. C'est plus étonnant pour le populisme parce que dans le djihadisme, effectivement, les guerriers, un guerrier en général est jeune. Il y a un moment, on ne peut plus, je veux dire, faire la guerre. Et là, on a eu affaire avec Daesh, en tout cas, un vaste mouvement de départ en Syrie, là, du temps où existait le califat, là, qui est en train donc de s'effondrer, mais avec quand même tout ce qu'il a attiré Et il a attiré effectivement des jeunes qui voulaient aller en découdre sur le terrain. Donc là, un phénomène guerrier. Je vais revenir, c'est assez important, ça, cette précision-là. Et en revanche, effectivement, le vote FN, on a été très surpris. Hein, c'est très intéressant pour ça, les études statistiques qui sont faites sur les intentions de vote, parce que a priori, tout le monde pensait à un mouvement de vieux. Pourquoi ? Parce que c'est le repli sur soi, parce que c'est on ferme les portes, on ferme les fenêtres et on veut surtout plus qu'il y ait de dehors. Toutes choses qui correspondent effectivement à un moment de la vie où on est plus fatigué, on se sent plus menacé. Eh bien, pas du tout. Hein. Là, en tout cas, ça a été confirmé par les dernières échéances électorales. Alors, évidemment, concurrencé cette fois par Jean-Luc Mélenchon, mais qui se réclame d'un populisme de gauche. Bon, avec, on reviendra éventuellement sur les problèmes que ça pose. Mais en tout cas, parmi les jeunes qui ne s'abstiennent pas, qui sont encore, évidemment, ça c'est autre chose, mais chez les jeunes qui ne s'abstiennent pas, premier ou deuxième, en tout cas, se disputant la tête avec Jean-Luc Mélenchon, donc la frange des jeunes électeurs. Et ça, donc, c'est plus étonnant. Et ça me renvoie donc à ce qu'on disait sur les différents degrés hein, de passage à l'acte. Parce qu'évidemment, dans le vote FN, pour l'instant, s'il y a eu un mort d'un étudiant de Sciences Po, il y a quelques années, bon, bien heureusement, les violences sont limitées. Le fait de jouer le jeu électoral oblige à endiguer les violences. Mais alors, déjà, soyons prudents, ce n'est pas le seul mouvement populiste de l'histoire. Il y en a eu d'autres. On a vu aussi qu'aux États-Unis, bah, premier effet du vote Trump, ça a été les drapeaux nazis à Charlottesville. Bon, il y a des choses qui peuvent permettre de craindre que la violence dont le populisme est grosse puisse s'exprimer. Espérons que le jeu du discours, de la parole électorale parviendra toujours à l'endiguer. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça ne viendra pas du populisme. Ça vient de ce que le discours politique reste quand même assez fort pour endiguer le passage à l'acte qui, sinon, est pris dans le populisme. Et je dirais que presque déjà, prendre sa carte FN pour un jeune, c'est déjà un passage à l'acte. C'est déjà se mettre en rupture, comme ils le disent, avec le système. Donc refuser en bloc le système. Donc c'est déjà quelque chose de totalisant et de potentiellement destructeur. Bon. Alors évidemment, dans le djihadisme, là, il y a un passage à l'acte qui est nettement plus avéré. Toutefois, le succès de Daesh a été à double tranchant. Puisque alors que Al-Qaïda était parfaitement élitiste, hein, voulait vraiment des guerriers sûrs, de gens dont on savait qu'ils allaient pouvoir aller jusqu'au bout. D'ailleurs, bon, c'était des jeunes aussi, mais quand même un peu moins jeunes, hein, si on prend les terroristes du 11 septembre. Ils avaient eu toute une formation déjà auparavant. Tandis que là, Daesh, ça a été la conversion en un clic.
Ils sont moins regardants.
Voilà, ils sont moins regardants. Mais du coup, ils ont eu aussi plus de repentis. Avec cette... Parce que, de fait, on évoquait tout à l'heure au début l'intrication des pulsions, de l'amour et de la haine dans le psychisme humain. Eh bien, pour certains, c'était par ce grand geste adolescent courant de solidarité avec des opprimés qu'ils sont partis. Hein, Daesh a beaucoup recruté sur les enfants morts par Bachar el-Assad, sur Bachar el-Assad massacrant la population. Et donc, certains sont partis pour faire la guerre à Bachar el-Assad. Et puis, ils sont arrivés sur le terrain. Ils se sont rendus compte que s'ils étaient à front al-Nostra, ben, il fallait d'abord qu'ils combattent Daesh. C'était à Daesh d'abord qu'ils combattent le front al-Nostra. Ils sont tombés dans la rivalité des groupes terroristes. Et plus rien à voir avec le combat contre le régime syrien. Et donc, déjà, pour Daesh, il y a eu des degrés. Hein. Alors, certains, d'ailleurs, ont pu revenir hein, avec le soutien de leur famille, sont revenus. Le journaliste Daniel Thompson a tiré un livre sur les revenants. Donc, voilà. Mais, évidemment, pour certains, plus ou moins dès le début, plus ou moins forcé ensuite, le passage à l'acte est venu. Alors, pour répondre quand même précisément à votre question, je sais que le fait de partir en Syrie ou de chercher à partir en Syrie, ça, là aussi, c'est un passage à l'acte. C'est déjà une rupture totale. Rupture avec la famille, changement de nom, etc., même pour les filles. Hein, c'est un passage à l'acte. Le fait même de chercher à partir, Je veux dire, c'est pas un vœu comme ça. C'est déjà un projet, des contacts, même si ça n'aboutit pas, ce n'est pas rien. Et donc, de la séduction, l'acte peut découler. Alors, évidemment, là, la propagande entre en jeu. Il faut peu de paroles pour la haine, mais nous sommes des êtres parlants, il en faut quand même un peu. Et l'argument majeur qui est donné par Daesh, mais qui vaut aussi pour le recrutement au Front National ou d'autres mouvements populistes, c'est l'argument de la cohérence. Ça, celui-là est très dangereux pour le passage à l'acte, parce que l'argument est toujours le même. Tu es d'accord avec ces idées, donc tu dois en tirer la conséquence de passer à l'acte. C'est-à-dire qu'on gomme toute division subjective, toute hésitation, tout le fait que si on était tous cohérents, ben on serait tous plus ou moins fanatiques. Non, enfin, je ne dis pas qu'il faut être incohérent, dire n'importe quoi, et demain aller raconter le contraire de ce qu'on a dit. Non, bien sûr. On a heureusement une cohérence et un devoir de cohérence. Je parle de la cohérence entre les idées et les actes. Bien sûr que c'est important de ne pas être trop en désaccord entre ces idées et ces actes. Mais il y a une façon de vouloir que les actes découlent de l'adhésion à certaines croyances qui fait fi de toute hésitation, de toute interrogation, de toute possibilité de changement dans l'avenir. Et là, on est dans la cohérence, je dirais, mortifère. Pas dans la cohérence qui fait que notre vie peut être rassemblée autour de quelque chose. Parce que notre cohérence dans la vie, elle est aussi l'ouverture d'un questionnement, de changement, de remise en question, etc. Là, non, c'est l'argument de la cohérence. Alors pourquoi est-il dangereux ? Parce qu'il fait résonner la haine de soi. Et là, encore un parallèle entre le populisme et le djihadisme, et qu'on entend bien aussi dans l'extrait de la vague que vous avez passée, c'est que cette cohérence, cette cause au service de laquelle le sujet se met, apparaît comme une conversion, une solution pour la vie du sujet. Et c'est là qu'intervient la haine de soi. C'est-à-dire cette exigence de cohérence, elle est faite pour tuer une partie de soi-même, la partie d'avant. Vous voyez ce qu'ils disent tous les jeunes ? Mais avant, on n'était pas comme ça. Donc, l'avant est tué. Alors que, bon, c'est, alors là, c'est Nietzsche que, on prend appui aussi sur sa mémoire, on prend appui sur son passé. Même si on doit bien sûr se détacher d'un certain nombre de choses. Mais enfin, on sait tous que dans les moments difficiles, on se souvient de ce que disait notre grand-mère, etc. Je veux dire, on a tous nos petits trucs intérieurs qui sont notre mémoire. Là, on a affaire, justement, à une radicale coupure qui doit permettre non seulement de passer à l'acte contre d'autres, mais qui est déjà un passage à l'acte contre soi. Et dans le djihadisme, le djihadiste est mécréant tant qu'il n'a pas tué de mécréant. Puisque lui-même est venu de la mécréance, il le demeure tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa cohérence. Et dans le populisme, le nationalisme, de même, postule que la part d'autre qui est en soi, puisque dans toute généalogie, Madou Défi trouvé, il y a toujours de l'autre que le national pur évoqué par les populistes, il y a toujours eux, il n'y a pas seulement nous, le nous est composé de eux, et donc tant qu'on n'est pas engagé aussi dans la haine de l'autre, on est soi-même compromis avec l'altérité. On est tissé d'altérité. Donc, c'est aussi dans la haine que ça se fabrique, tout ça.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie. Fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller, les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet, mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles, adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés, c'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses, proche du port au point d'attraper la fièvre afteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle, plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant, leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils te pèsent avec le sourire, tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes, devenus néo-nazis parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Seul, ils lèveraient pas le petit doigt dans un combat de pouces. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous, ces baltringues ne supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire, donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils. Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés, qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage, transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images, vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents, qui pose pas de questions tant qu'elle consomme, qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort, c'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu les
viennes... Aurel San, Suicide Social sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Alors Aurel San, c'est un morceau qui date de 2011. On va écouter juste un petit extrait d'un film qui date de 1995 et qui est un des classiques, un des films classiques sur la banlieue et sur la haine en l'occurrence, puisqu'il s'appelle La haine.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute.
Paris varoşlarında sıradan bir gün. Bir yabancı polisin saldırısına uğradı. Arkadaşları intikam almaya kararlı. Nefret giderek büyüyor.
Tu me parles pas comme ça, ok? Je te connais pas.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Alors, Alors donc La Haine, qui est un film de Mathieu Kassovitz qui date de 1995. Qu'est-ce qui a changé, Hélène Leuillet, depuis 1995 pour que cette jeunesse aujourd'hui... Alors là, dans La Haine, la haine est tournée plutôt vers la police. Pourquoi aujourd'hui la haine se tourne en fait vers la société tout entière, à tel point qu'on veut la rendre à néant, qu'on veut la détruire complètement?
Ben écoutez, alors, je ne sais pas si ça a changé, à vrai dire. Enfin, je crois que Kassovitz avait saisi là un phénomène, hein, de manière... Ça arrive dans l'art. Hein. Il avait saisi quelque chose de l'air du temps qu'on ne voyait peut-être pas à l'époque. Ce n'est pas tant que ça ait changé, que c'était là et on ne le voyait pas. Ça n'avait pas encore éclos. Hein, j'en veux pour preuve le fait que ce film, effectivement, dont vous rappelez qu'il est ancien, est encore un des films préférés des jeunes aujourd'hui. Hein, pas tout à fait un film culte, parce que c'est compliqué, un film sur la haine, mais un des films qu'ils voient, hein, alors que d'habitude, ils ne voient et n'écoutent que des choses récentes. Non, La Haine, non. C'est-à-dire que je crois que là, il y avait quelque chose qui... il avait saisi quand même un nouveau discours sur la haine. Alors, vous avez raison, ça se focalisait plutôt sur des cibles. Hein, c'est un peu comme le mouvement du terrorisme qui était ciblé. Alors que le discours est devenu un discours beaucoup plus général. Vous avez passé aussi cette chanson de rappeur où dans le rap, il y a effectivement quelque chose qui se dit plus librement, hein, de la haine, et pas seulement la police, la haine de la société en général. Également, on voit dans d'autres chanteurs, hein, qui évoquent, même dans des situations plus intimes, hein, je pense à Mika dans le rapport mère-fils, hein, ou dans Kali, alors qui est un peu plus âgé, mais qui, pareil, a saisi quelque chose de l'air du temps dans le rapport conjugal, la haine qui s'exprime plus librement. Mais on est quand même dans des phénomènes de culture. Alors peut-être que c'est ça qui a changé, qui peut changer. Enfin, voilà, je veux croire que comme Freud, il y a toujours deux bords dans le malaise, dans la culture, hein, quelque chose qui est du côté de la vie, quelque chose qui est du côté de la mort, comme en nous. Ce qui est du côté de la vie, c'est quand même que ce sont des formes culturelles. Et que donc la culture, le cinéma en l'occurrence, et les chansons, se font l'écho, hein, de ce qui n'arrive plus à s'articuler en nous entre la pulsion de mort et la pulsion de vie, et tente de le retisser. Hein, parce que en même temps, voilà, on n'est pas dans des mouvements de foule, on n'est pas dans quelque chose qui est dans l'ordre du passage à l'acte, du moins en général, majoritaire. Les jeunes qui aiment le rap, ben, ils dansent et ils chantent. Hein. On reste dans la culture, et la culture a toujours finalement une seule mission, c'est de tisser la haine dans l'amour, hein, de faire en sorte que on compose avec la haine pour pas être emporté par elle. Et voilà, en revanche, bon, évidemment, ce discours sur la haine, il favorise aussi, hein, pour certains, justement, la séduction à aller au-delà de la culture, au-delà du langage, quitte à risquer la destruction de la culture et la destruction du langage. Voilà, là, l'autre bord, il est là. Ce qui a changé, c'est que ce n'est plus seulement sur les écrans du cinéma, ce n'est plus seulement dans la chanson rap, c'est partout, tout le temps, que la haine se dit si facilement. Je veux dire, en politique, qui est quand même le grand discours collectif, hein, au travail également, la haine, c'est la rapidité, vous voyez, qui nous donne, ou sur les émissions de télévisées. Enfin, récemment, on a beaucoup commenté le Heure, Christine Angot, Sandrine Rousseau. Comment, alors, c'était un montage à la télé, bien sûr. Donc, mais justement, c'est intéressant que le montage ait voulu produire cet effet que la haine explose rapidement. En fait, ça a pris peut-être beaucoup plus de temps, mais il a paru opportun aux monteurs de l'émission, enfin à ceux qui ont conçu l'émission montée, que la haine monte rapidement. Et c'est ça qui fait peur. Hein. C'est-à-dire que quand on sent, vous voyez, il y a cet autre film avec Simone Signoret qui s'appelle Le Chat, je crois, où on voit la haine s'installer entre deux personnes, ou Le Beau Bel du Seigneur d'Albert Cohen, où on voit comment la haine se met lentement à prendre, insidieusement à prendre la place de l'amour, hein. Eh bien, il y a quelque chose qui est terrible, mortifère, mais qui ne fait pas peur. Je veux dire, je vois pas, je connais personne qui était traumatisé en lisant Belle du Seigneur. Je veux dire, on est triste, mais bon. En revanche, l'explosion rapide de la haine, c'est-à-dire, on commence par un désaccord et bing, hein. Alors là, ça, c'est quelque chose de nouveau et qui s'est généralisé, qui n'est plus ciblé. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand. Là, vous discutez tranquille et bang. Vous prenez un tir, comme on dit. Ben oui, c'est bien ça. L'image est juste. Un tir.
Ouais. Alors, est-ce qu'on peut relier justement ceci à une notion de société de l'urgence où tout est tellement rapide que tout est accéléré d'une force inimaginable ?
Tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes dans des sociétés qui favorisent la pulsion. Et quand on est dans le pulsionnel, c'est la haine qui gagne. La haine, elle est beaucoup plus rapide que l'amour. Hein. Et donc, mais cela dit, dans notre société, l'amour devient aussi très pulsionnel. Hein. Donc il y a une évolution vers le pulsionnel, vers la rapidité, vers l'urgence, vers les conversions rapides de Daesh, impossible sans Internet. Alors déjà, à l'époque d'Al-Qaïda, on disait pas de Al-Qaïda sans Internet. Hein. C'était cet article de Gilles Kepel qui avait fait grand bruit à l'époque. Mais avec Daesh a tiré les conséquences parce que immédiateté du recrutement. Il ne faut pas laisser trop le temps de réfléchir. C'est attention, on a rendez-vous tout à l'heure, dans une heure, et puis et demain tu fais ceci. Voilà pourquoi ça a été si rapide. On est dans une temporalité de l'urgence, et là, effectivement, attention, parce que ça suscite en nous la pulsion. On n'a plus le temps de symboliser la pulsion, on n'a plus le temps donc de la contenir avec des mots, et cette pulsionnalité, évidemment, s'accompagne ou entraîne une grande crise du langage, et qui lui-même, du coup, quand le langage est en crise, quand on n'a plus ce que je disais tout à l'heure, ces mots qui nous aident à vivre et qui nous donnent envie aussi de parler et de parler à l'autre, voire d'écrire, eh bien, forcément, il reste la pulsion, hein, donc les addictions, tout le rapport addictif qu'on peut avoir à Internet, aux jeux vidéo et puis aux autres, du coup, un rapport très pulsionnel aux autres avec qui on vit et un rapport très pulsionnel à soi aussi.
Alors comment on redonne du sens au langage et du temps aux jeunes ?
Alors, bon, moi, je crois qu'il y a des possibilités. Enfin, il y a évidemment un état d'esprit à avoir. Hein. Nous sommes dans des sociétés qui poussent à l'identité. Je veux dire, on n'est pas obligé de pousser à l'identité. On n'est pas obligé de demander à un jeune de 14 ans qui il est et qui il sera. Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Hein. Il faut qu'un jeune de 14 ans ait un projet. Ça signifie que là, justement, toute cette division subjective qu'on évoquait tout à l'heure, d'interrogation, de remise en question, on est à une époque où on vit longtemps, s'il n'y a pas d'accident, on est à une époque où on change de travail, où on change de vie plusieurs fois dans sa vie, et quand il s'agit des enfants et des adolescents, à 2 ans, on dit « Ah, celui-là !» Tiens, c'est étrange, vous devriez consulter, votre enfant est timide, etc. Moi, j'ai coutume de répondre, c'est que là, c'est très bien, il ne le sera donc pas à l'adolescence. Parce que ce qui est quand même le plus commun, c'est que justement, on n'est pas à l'adolescence comme on est dans l'enfance. Tout ce changement, bizarrement, la pulsionnalité empêche le changement et rigidifie l'identité. Et donc ça, c'est quand même possible d'être un peu moins identitaire, un peu moins narcissique. Le temps viendra tout de suite avec. Et on retrouvera la parole, puisque aujourd'hui, on est en train de la perdre. Mais ce sont les conditions, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis, on va passer à l'entretien psy. Ça tombe bien, puisque vous êtes psychanalyste.
Ah, bah parfait.
Un psychanalyste, ça se tait, effectivement. Mais pour cette fois, vous allez répondre un petit peu à nos questions. Est-ce que vous avez un souvenir de la première fois que vous avez ressenti la haine ?
Vous me demandez, vraiment, c'est vrai que tu comprends le titre de l'émission. Hein. D'autant que la haine, c'est vraiment le sentiment qui nous pousse à effectivement à écoutez, franchement, je dois dire que là, vous me posez une colle. Pourtant, j'ai l'habitude de l'introspection, mais c'est intéressant que je n'ai jamais pensé à ça. Là, vous allez me faire cogiter. Non, j'ai pas de souvenir. Mais c'est une question très importante. Et ça revient d'ailleurs à la première question que vous m'avez posée sur l'entretien, c'est-à-dire pourquoi, au fond, il y a si peu, on parle si peu de la haine, on n'y pense pas beaucoup non plus, on cherche vite à s'en débarrasser. Donc, je suis désolée, mais pour moi, la haine est refoulée, vous voyez, bien refoulée. Et puis, voilà, sans doute, il y a des choses qui ont émergé, mais la pratique de l'analyse fait qu'on transforme le refoulement et que voilà, c'est parti dans le refoulement. J'ai pas de souvenir, non.
Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur la haine? Qu'est-ce qui vous attirait dans ce sujet? Est-ce qu'il y avait une sorte de fascination, quelque chose comme ça?
Ben oui, alors là, je m'intéresse aux choses un peu difficiles. Alors ça, oui, il y a des éléments. Oui,
vous êtes une récidiviste.
J'ai une récidiviste. J'ai commencé par la police, le terrorisme, le voisinage, dans lequel j'ai beaucoup parlé de la haine aussi, parce que le voisinage, c'est à la fois magnifique, c'est comme nos pulsions, hein, je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans le voisinage, mais de la haine aussi. Oui, alors, les conditions de mon existence personnelle, si vous voulez, me psychanalyser, sans me déshabiller, je peux vous dire qu'effectivement, je suis née personnellement dans la violence. Je ne me souviens pas de mes premiers souvenirs de haine. Ah, maintenant que vous me le dites, effectivement, je me souviens avoir détesté mon institutrice, mais c'était déjà tard, en CM2. Je ne sais pas, plus tôt. Mais alors là, je me souviens que je la détestais. Et alors, ça confirme tout à fait ce qu'on disait, c'est-à-dire que le langage donne prise sur la haine, c'est-à-dire que le hasard a fait que je me suis retrouvée à partager un bout de vacances avec cette dame et que du coup, la haine est tombée. Voilà.
Comme quoi?
Pas pour laisser... Non, parce que quand on parle avec quelqu'un... Voilà, mais oui, elle, je l'avais détestée pendant un moment. Donc, bon, moi, effectivement, je suis née dans la violence, au cœur de la violence, dans la guerre. Je suis tombée dans un attentat à l'âge de 2 ans. Ma mère s'est conduite héroïquement quand j'étais un petit bébé. Elle a dû me confier à des voisins pour emmener un enfant blessé à l'hôpital. Enfin, voilà, moi, je suis née dans... Enfin, je ne suis pas la seule, hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans la guerre.
Bien sûr.
On parle des migrants, des réfugiés. Je connais beaucoup de collègues analystes aujourd'hui qui ont affaire à cette clinique, qui voient arriver des enfants traumatisés. Voilà, bon, donc moi j'ai quelques raisons de m'intéresser, de vouloir décrypter un petit peu ces phénomènes qui pour moi ont été précocement l'impensable.
Justement, quand on est psychanalyste, comment on fait pour se préserver de la haine de l'autre? Est-ce qu'on lève un bouclier? Comment ça se passe?
La haine, dans une analyse, il n'y a pas à s'en préserver. C'est toujours un moment extrêmement précieux de l'analyse. Parce qu'évidemment, un analyste, alors lui, il est bien habillé. Il est habillé de tous les habits qu'on lui prête. Hein. Donc, on change, on est protéiforme comme analyste. On est tantôt la nounou, tantôt le papa, tantôt le père méchant... tantôt le géniteur, tantôt le conjoint ou la conjointe, etc., ou les enfants. Enfin bref, on se prête à tous ces jeux qu'on appelle de transfert. Et quand la haine apparaît contre l'analyste, c'est toujours quelque chose de tout à fait important qui indique qu'il y a quelque chose de la séparation qui est en jeu et d'une prise en compte de l'altérité. C'est-à-dire que là... là, c'est pas. Il n'y a plus le transfert d'un coup, parce que la haine est désidéalisante. Hein. La haine, elle fait tomber tous les oripeaux. Elle déshabille, précisément. Et donc là, au lieu de voir dans l'analyste cette personne qui m'entend et avec laquelle je rejoue les expériences que je dois revivre, eh bien, il n'y a plus que le gus ou la bonne femme qui est là et qui vraiment, aujourd'hui, m'insupporte. Il y a là quelque chose d'un réel qui est toujours important. Donc, pas s'en défendre, même si on n'est pas obligé de se laisser sadiser par les patients, bien entendu, ce n'est pas la question. Mais qu'il y a là quelque chose de précieux à recueillir. Parce que quand on peut recueillir les enseignements de la haine... Eh ben, c'est le contraire de la jouissance de la haine. On retrouve de l'éros, on retrouve du désir, précisément parce qu'on est ramené à soi, à ses difficultés, à ce qui en soi doit se séparer d'eux. C'est souvent des moments de séparation. Il y a quelque chose qui bouge Et il faut en passer par la haine. Et moi, c'est intéressant, vous m'avez fait revenir ce souvenir de mon institutrice de CM2. C'est un moment de séparation. Hein. C'est un moment où on va au début d'adolescence. C'est un moment de séparation. Les moments de séparation sont nécessairement accompagnés de haine. Là, en revanche, où je m'inquiète, c'est quand quelqu'un qui vient, par exemple, d'être quitté lâchement, méchamment, en étant trompé, etc., n'a aucune haine.
Effectivement, c'est là que ça fait peur. Oui, oui. Bien, merci beaucoup à vous, Hélène Leuillet. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'essai « Tu haïras ton prochain comme toi-même » publié chez Albin Michel en 2017 dans toutes les bonnes librairies. Dans quelques instants, on retrouve MapMonde avec Thomas qui est en train d'entrer dans le studio, qui vous parlera de rockabilly. Il reçoit Jackie Banana avec qui et que vous pourrez retrouver le 27 octobre à la soirée de rentrée de Radio Campus Paris au Hasard Ludique. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Merci à Christophe pour la réalisation de cette émission.
Radio.